à tous les idiots du village. Que la méchanceté des hommes n'atteigne jamais vos cœurs si innocents. Partie 1. Thé à la menthe. Chapitre 1. Mieux vaut la mort qu'une vie de honte. 3 jours de torture, et ce fut tout ce qui sortit de la bouche de Salah, ses mots et la moitié de ses dents. Malgré les coups qui pleuvaient et les sévices sans nom, ce rebelle refusait obstinément de trahir ses compagnons d'armes. En chef avisé, il les avait dispersés dans différentes caches au plus profond d'un maquis. Les officiers de renseignement savaient que leurs prisonniers avaient des noms à balancer. Le traître qui avait vendu Salah, lui, avait parlé. C'était l'hiver 1960, en pleine guerre d'Algérie, pendant les ratissages du plan Châle. Les soldats de l'Empire étaient plus nombreux et plus actifs que jamais. Face à cette pression constante, à la dure vie au maquis, à la mort qui planait partout, des rebelles déposaient les armes et rejoignaient l'armée française. Les nuits blanches et la misère avaient conduit un des hommes du supplicié à se rendre. Il avait fui la nuit pendant son tour de garde et était devenu un peu trop bavard. Au petit matin, les paras prirent des otages au village et les amenèrent devant la grotte du guerriero. Se voyant encerclé, Salah saisit une grenade pour un dernier baroud. Mais il reconnut son petit cousin terrorisé au milieu des soldats ennemis. Lui avait choisi de se battre, pas cet enfant. Alors tant pis. Il rangea la grenade dans sa poche et quitta sa cache pieds et poings liés. C'était la fin pour lui. Et pour sa cause perdue, une Algérie libre. La lutte héréditaire de tout un peuple reposait sur des bergers illettrés et des journaliers sans le sou qui n'avaient jamais eu aucune chance de victoire. En face, ils avaient juré de se venger des Viettes sur les Bicots. Juré sur leur mort qu'il n'y aurait pas de second Diem Bien Phu. Avec l'Indochine et la bataille d'Alger dans les pattes, l'armée française était devenue la meilleure du monde. 6 ans de guerre, plus 1 million de soldats, tout le contingent, la grande nation entière mobilisée. Du napalm, les premiers hélicoptères de combat et les derniers avions à réaction de l'OTAN. La France combattait une poignée de paysans berbères comme s'il s'agissait de reprendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Sans les accords de Genève, bons pour les hommes, les vrais, pas pour les indigènes. Après tout, l'Algérie était française avant la Savoie. Elle le resterait avec les méthodes de la Gestapo. Les parachutistes connaissaient donc très bien leur affaire quand ils avaient pris Salah. On lui avait appliqué la technique éprouvée du bâton et de la carotte. Après l'avoir battu comme plâtre pendant des jours, les bourreaux agitèrent devant les yeux pochés du rebelle un superbe uniforme de l'armée française et la solde mirifique de sous-officiers qui allait avec. Rejoindre le camp du vainqueur, assurer un avenir radieux à sa famille et ne pas mourir. Une bien belle carotte. Un magnifique rayon d'espoir, surtout descendu au plus profond d'un cachot fait de ténèbres et d'horreur. Comment ce paysan pauvre comme Job, qui avait toutes ses molaires par terre, pouvait-il refuser un marché si juteux? Il luttait contre un empire colonial, une puissance atomique à l'apogée de son pouvoir. Les villages bombardés, les camps de concentration, l'armée de libération décimée, coupée de ses sources de ravitaillement. Partout, le feu, la faim et le sang. Tout dans cet univers montrait que le combat de Salah était perdu pour de bon. On l'avait trahi et son corps, atrocement mutilé, souffrait le martyr. Lèvres closes, 1000 autres tourments l'attendaient encore et pour finir, la corvée de bois. Une balle dans la tête. Sa vie inutile finirait misérablement. Sauf s'il parlait. Le plus tentant, c'était cette solde, cette fortune qu'on lui proposait pour endosser un si bel uniforme en échange d'un doigt posé sur une carte de campagne. Salah avait laissé sa famille dans l'indigence la plus totale pour monter au maquis avec son vieux fusil de chasse, à peine assez bon pour tirer une perdrix. 6 de ses enfants étaient morts en bas âge pendant cette guerre atroce. L'administration coloniale refusait les tickets de rationnement aux familles des rebelles. S'il vendait ses frères d'armes à bon prix, s'il paradait avec ses galons dorés, les enfants qui lui restaient n'auraient plus jamais faim. Lui-même échapperait aux tortures et à la mort, reverrait ses 2 petites filles adorées, sans parler de sa digne épouse qui, la veille de sa capture, venait de lui donner son tout premier garçon. Poser les yeux sur un fils si longtemps désiré, quitter enfin l'époux et la crasse du maquis, devenir riche à manger de la viande tous les jours de marché. Grand-père n'hésita pas une seconde. Pour un Kabyle, mieux vaut la mort qu'une vie de honte. Chapitre 2. Les émigrés du Québec mesurent le temps en égrenant les hivers auxquels ils ont survécu. Un fils d'immigré algérien le décompte en nombre d'étés au pays. La nouvelle année pour moi se célébrait au port d'Alger, quand je mettais le pied sur un bateau climatisé. Le retour en France, la fin des grandes vacances. Et cette année, la fin de l'enfance. En 1997, j'avais 17 ans. 17 mois d'août en Algérie. Pas deux solstices de suite n'étaient passés sur cette terre sans que je voie celle de mes ancêtres. Les Paris-Marseille, c'était pas du foot pour moi. C'était la gelée royale du plan galère. Autant au match aller qu'au match retour. Je complotais tous les ans contre mon grand frère et mes deux petites sœurs pour avoir une place à la fenêtre, à l'arrière de la voiture. La seule chose dans l'univers qui permettait de supporter 7 heures de trajet, coincé comme une sardine dans sa boîte. C'est que mon père était chauffeur de taxi. Pour lui, il n'y avait que les amateurs et les prostituées qui s'arrêtaient sur les aires de repos au bord de l'autoroute A6. Il considérait les pauses pipi comme un sacrilège, un caprice d'enfant gâté pourri par toute une vie dans le pays de l'eau chaude au robinet, du shampoing aux œufs et du sapin de Noël. Compacté dans un pénible millefeuille de frères et sœurs, je laissais tous les ans derrière moi un pays à feu et à sang, en lutte contre le GIA, le groupe islamique armé. La famille passait les vacances dans une grande maison, au milieu d'un champ, loin des premières masures du village. Les nuits sans électricité étaient belles. En France, on ne voyait ni les étoiles filantes, ni la Voie lactée briller dans le ciel. En revanche, personne n'aurait entendu le moindre bruit si les terroristes avaient décidé d'égorger la seule famille d'émigrés, petit bout d'Occident impie, en villégiature dans la vallée. Ainsi, je passais 70 nuits d'été par an sur un matelas étendu à même le sol de la terrasse, de grosses pierres posées à mes pieds. Une idée de papa, stratège incompris. Ordre nous avait été donné à mon frère et moi de les jeter en visant les têtes ennemies, du haut des murs, comme lors d'un siège, le temps que mes sœurs et maman puissent prendre la clé des champs, pendant que le paternel irait au contact, gourdin à la main, pour l'honneur. C'était l'idée fixe du daron. Si on crève, on crève. Un Algérien, ça va en vacances en Algérie. Ce fou du volant devait être la réincarnation de Shiva ici-bas. Avec une épouse et 4 mioches à trimballer, la traversée en bateau lui coûtait tous les ans un bras. Les sommes qu'il lâchait nous auraient permis d'aller en vacances au bord de n'importe quelle plage du Pacifique. Mais un cocktail aux 12 fruits versé dans une noix de coco au bord de la piscine d'un hôtel 5 étoiles, c'était de la pisse d'âne pour le padré à côté d'une carafe d'eau prélevée à la source du village de son enfance. Il avait mon âge quand Citroën était venu le chercher après l'indépendance pour trimer dans une usine. Pour nourrir sa famille, surtout, rester dans le bled. Il était aussi beau que Clark Gable et avait pris une épouse aussi caractérielle que Scarlett O'Hara dans « Autant on emporte le vent ». Quand la madré sentit qu'une vie grandissait en elle, 3 mois après la naissance de son premier enfant, elle demanda à mon papounet ce qu'elle devait faire de moi. Kamel, tout nouveau-né qu'il fût, était déjà un démon renard qui pompait toute l'énergie du jeune couple. Le chef de famille exigea donc une annulation de commande, suivie d'un retour au chou où la cigogne m'avait trouvé. Mauvaise réponse. Comme toutes les femmes kabyles, maman détestait par principe obéir à son mari. Pour Madame Ossini, ce n'était même pas un principe, c'était un réflexe. Si papa avait été le premier à dire « Oui, je le veux », le jour de leur mariage, elle aurait certainement répondu « Non merci », avant d'ajouter précipitamment « Désolé, c'est sorti tout seul. » Sans ma mère et son caractère de dragon de Komodo, je n'aurais jamais eu de prénom. Pour marquer le coup, elle m'appela Idir. Il vivra en Amazigh.